Alors j'ai entendu quelque chose qui m'a beaucoup frappé tout à l'heure et que j'aime bien, la notion d'effort. Pour plus exactement un ouvrage que j'avais publié au Seuil sur Queneau, et je vais vous parler de Queneau, ça on n'étendra pas énormément beaucoup. Denis Roche, qui dirigeait la collection Les Contemporains à l'époque, au Seuil, m'avait demandé qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme phrase en quatrième de couverture. Et ça m'est venu, mais comme ça, c'est tombé, c'était évident, il y avait une évidence. Je vais vous la redonner parce que je viens, alors paradoxalement, de la récupérer de manière littérale sur Internet pendant que je vous écoutais, parce que je la savais, mais je n'étais pas bien sûr de vous la donner de manière littérale. Et en fait, cette citation qui est tirée du Prière d'insérer de Gueule de Pierre, qui est un ouvrage, je ne rentre pas dans les détails, et qui dit « Pourquoi ne demanderait-on pas un certain effort au lecteur ? On lui explique toujours tout au lecteur. Il finit par être vexé de se voir si méprisamment traité le lecteur. » Je vous le laisse je vous le laisse méditer. J'aime beaucoup cette citation et je l'avais prise pour comme cadre de cet ouvrage qui était donc paru dans la collection Les Contemporains au Seuil. Comme Marc, c'était ce que moi je ressentais comme quelque chose d'extraordinairement important. Et vous allez voir en fait que ça a un lien direct avec ce que je vais tenter de vous raconter. Et puis aussi ce qui est, me semble-t-il, une des dimensions de ces rencontres. Et je ne focaliserai pas mon regard dans un premier temps sur le numérique qui va être au cœur de notre sujet collectif, parce que ça n'en est à mon avis qu'un des aspects, de ce que j'aimerais vous raconter, pour m'intéresser en fait beaucoup plus généralement à la question de ce que nous avons appelé les métamorphoses médiatiques, c'est-à-dire en fait le fait qu'un texte circule dans le corps social, et qu'il bouge, et qu'il ne bouge pas comme ça dans l'air. Ça n'est pas quelque chose de désincarné, c'est quelque chose qui est toujours incarné, pour rester sur la même métaphore, et donc qui emprunte des voies, des dispositifs, et on y reviendra. Cette modalité d'approche a pour vertu, me semble-t-il, d'ancrer les œuvres dans la réalité concrète des supports, des dispositifs, des médias. Elle s'intéresse plus particulièrement au processus de communication, qui forme et informe les auteurs, aussi bien que les acteurs, car Catherine en a parlé tout à l'heure, les auteurs, aussi bien que les lecteurs, que les médiateurs et que les usagers, et on parlera de consommateurs de culture aussi. Elle ouvre par exemple la traditionnelle génétique littéraire à laquelle je vais faire référence tout à l'heure, à une génétique plus large qui sera la génétique éditoriale, c'est-à-dire le texte est placé dans une situation qui est une situation industrielle, une situation économique, une situation de production. Et en fait, elle pose cette manière de regarder les choses, pose plus généralement la question de ce que j'ai appelé l'énonciation éditoriale. On y reviendra peut-être si on a un petit peu de temps. Le prétexte que j'ai choisi, j'en avais parlé avec Martin Marzloff pour lui expliquer un peu, prendre un objet très concret, et j'ai profité de l'occasion de la sortie prochaine, dont je vous ferai voir la couverture tout à l'heure, la sortie prochaine d'une nouvelle édition des exercices de style de Queneau dans la collection Folio en avril. Je vous dirai pourquoi et je vous dirai ce qu'elle a de particulier, notamment qu'elle offrira aux lecteurs toute une série d'inédits que nous n'avons pas publiés dans la Pléiade. Il y a des raisons, ça aussi ça s'explique, ça aussi ça mérite d'être donné à lire et à entendre. Et puis il y a une approche que je vous propose là, précisément, que vous retrouverez en partie. Alors, j'ai appelé cette approche l'effet des exercices de style de Queneau, qui ont souvent été considérés comme une œuvre assez secondaire, une œuvre tout à fait inclassable, quelque chose qui était, dont on ne savait pas trop quoi faire, chez les littéraires notamment. Or, le succès de cette œuvre montre, a contrario, qu'elle est une des manifestations les plus vivantes de la littérature contemporaine. Et je vais essayer de vous faire voir comment, de ses pratiques, de son édition jusqu'aux pratiques numériques. Pourquoi y a-t-il un tel décalage entre la qualification académique de l'œuvre et sa réception dans le corps social ? Le succès des exercices de style n'est-il pas dû au fait que plus qu'une œuvre d'auteur, c'est aussi, et avant tout peut-être, une véritable œuvre de lecteur ? Une œuvre qui, au-delà des discours théoriques a effectivement modifié les relations entre l'auteur, le texte et son lecteur. Alors, pour mieux comprendre ce phénomène qui est un phénomène d'ordre culturel, je porterai mon attention sur l'histoire du texte à proprement parler. Et je m'intéresserai ensuite à ses multiples métamorphoses, puis à sa circulation dans le corps social. Enfin, je tenterai de clarifier le statut singulier de cette œuvre, parce que ce que je raconte d'un point de vue communicationnel n'est pas applicable génériquement à tout, que l'œuvre est là, effectivement, et qu'il y a la question que vous évoquiez tout à l'heure, cette fameuse question extraordinairement complexe à traiter, qui est celle de la littérarité, et qui n'est pas soluble dans l'eau, comme chacun sait. Et donc, il va falloir travailler réellement et la prendre à bras le corps. Je m'intéresserai donc en fait à tous ces aspects, et puis j'étais en train de clarifier donc cette spécificité de l'œuvre de Queneau, l'exercice de style, à partir d'une expression, un effet. Queneau a parlé d'un effet, il a dit, je vous en parlerai tout à l'heure de manière plus précise, il y a quelque chose qui se passe là. Et vous allez voir que ce quelque chose qui se passe, c'est en relation avec le lecteur. Un effet qui en fait a bouleversé non pas de manière spectaculaire, mais en profondeur, qui a marqué la littérature du XXe siècle. Et c'est ça qui va aussi nous intéresser. Alors, je vais commencer par une histoire éditoriale. Le premier regard que je porterai va porter sur l'histoire éditoriale du texte, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail très, très lent, précis, en bibliothèque, à arracher les informations auprès des propriétaires de droit. Je passe les détails, je vous en parlerai si vous voulez, c'est extrêmement intéressant, l'histoire littéraire est faite de ça aussi. On y distingue dans cette histoire littéraire deux périodes essentielles. La première est liée aux exercices de style qui ont été écrits durant la Seconde Guerre mondiale et elle révèle un ancrage historique et politique qui est tout à fait singulier. Cet ancrage, comme je le développerai à l'instant, est un ancrage qui est attaché à l'esprit de résistance. C'est tout à fait contemporain et ça va nous faire un bien fou que de remémorer certaines choses. La seconde période de cette œuvre est caractérisée par la création de l'Oulipo, dont on a entendu parler et dont on va entendre parler, je pense, l'ouvroir de littérature potentielle, et qui marque un tournant décisif à la fois dans la vie et dans l'œuvre de Queneau. Et l'œuvre à laquelle je m'intéresse là, en fait, est une œuvre de clivage qui va articuler ces temps. Alors, l'esprit de résistance pour commencer. Les exercices de style sont nés au cœur de la Seconde Guerre mondiale et présentent la particularité d'être éditorialement marqués, parce que Noël Arnaud, qui était alors président de l'Oulipo, appelait l'esprit de la résistance. Par vagues successives, Queneau rédige en effet plusieurs séries d'exercices entre mai 42 et juillet 44. Les dates sont importantes. Hein. Il publie ses premiers textes, une cinquantaine environ, entre 1943 et 1945, dans quatre. Alors, je vais vous faire voir, juste pour le plaisir, une image, un peu chargée. Je dois être honnête, j'ai fini ça avec Flora hier. Et j'ai pas eu le temps de faire des gradations très 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 précises, des dynamiques et tout. Je vous donne tout, je fais le tri, puis après je vous donnerai le sens de tout ça. Vous avez en haut trois documents, un manuscrit, un tapuscrit, et puis une épreuve corrigée. Et en dessous, mes quatre revues, les fameuses quatre revues, qui sont dans l'ordre de gauche à droite, Message, domaine français, Message, La Terre n'est pas une vallée de larmes et Fontaine, je vous les présente en deux mots, Message, la revue de Jean Lescure, on ne peut plus résistant aux yeux de l'éternel, comme disait l'autre, La Terre n'est pas une vallée de larmes, revue surréaliste belge, Message est paru en fait en Suisse notamment, et puis Fontaine, la célèbre revue de Max-Paul Fouché, qui était considérée à l'époque comme le phare de la résistance littéraire. Donc je vous donne ce contexte, c'est un contexte particulièrement important pour nous. Après la libération, pendant l'été 46, écrit Queneau, il ajoute 53 autres textes, 53 autres exercices, et le tout, une fois recomposé, constitue l'édition originale qui paraît en 1947, que je vous ai mis là dans la collection blanche, au milieu. Et j'ai là déjà un fondement important pour mon œuvre. En 1942, Queneau est alors chef du comité de lecture chez Gallimard. Il travaille dans un contexte historique que vous connaissez et politique qui est dominé par la double dictature des forces d'occupation et du régime de Vichy. Il vit alors à Paris, séparé de sa femme et de son fils qui sont réfugiés en zone libre. Je vous rappelle que sa femme, Janine Kahn, est juive. C'est la sœur, pour la petite histoire, c'est la sœur de Simone Kahn, laquelle était l'ancienne femme de Breton. Je passe les détails, je vous en parlerai, tout ça a son importance. Et à partir de 1943, il est assigné au service de travail obligatoire, le fameux STO, instauré par le régime de Vichy à la demande de l'Allemagne nazie. Si l'auteur participe activement au ce qu'on a appelé le CNE, c'est-à-dire le Comité National des Écrivains, organe de la résistance littéraire, son engagement politique, en revanche, se traduit avant tout à travers sa pratique éditoriale. Durant toute cette période, il refuse de collaborer aux publications de Vichy et de l'occupant et ne publie que dans des revues, des journaux qui sont proches de la résistance, ainsi les quatre dont je viens de vous parler. Les exercices de style, historiquement, sont marqués par le caractère politique de ces revues dans lesquelles ils paraissent. Deuxième temps, je suis très très rapide avec vous, mais on y reviendra sur les détails si ça vous intéresse. Deuxième temps, la question de l'Oulipo. C'est pas courant qu'une œuvre, enfin c'est pas courant, j'exagère dans l'histoire littéraire, en fait il y a énormément de cas de cette espèce, qu'une œuvre soit profondément remaniée par son auteur à un moment donné. Et c'est le cas qui va nous intéresser ici. La seconde période de mutation des exercices de style se joue en deux mouvements autour de la création de l'Oulipo en 1960. Elle se traduit par un jeu croisé d'influence et de reconnaissance symbolique. Et là, je voudrais qu'on soit un tout petit peu plus fin dans le raisonnement. Il ne s'agit pas uniquement de relations directes à l'édition. Il y a quelque chose d'autre qui est en train de se jouer. À l'origine, l'ouvroir de littérature potentielle, donc, qui est fondé en 60 par François Le Lyonnais, grand résistant et résistant communiste, qui lui a valu d'être interné au camp de Dora, dont il est sorti vivant, fort heureusement, et puis fondé par François Le Lyonnais, mathématicien, et Raymond Queneau, est un groupe d'une dizaine d'amis d'écrivains, à peu près, de peintres, de mathématiciens, qui se sont donnés pour tâche d'inventer, à partir de contraintes choisies, de nouvelles formes poétiques ou romanesques à la croisée de la mathématique et de la littérature. Un an après sa création, l'Oulipo rend un hommage fervent à l'œuvre de Queneau, en intitulant son premier recueil collectif, que vous avez ici en haut à droite, en espèce de rouge orangé avec une gidouille, qui est en fait une des publications du Collège de Pataphysique, et qui est la première publication de l'ouvroir de littérature potentielle qui s'appelle Exercice de littérature potentielle. On ne peut pas rêver mieux. Ça paraît en 1961. Ça, c'est du Queneau de base. Et Queneau y publie deux exercices de style qu'il a rédigés à partir de la fameuse technique S+7 que vous connaissez probablement, qui est une technique de substantif plus 7. Donc vous prenez un dictionnaire, à partir de votre texte de base, vous faites une translation du premier du substantif au septième que vous avez dans la liste alphabétique de votre dictionnaire, et puis vous faites une transformation, une métamorphose du texte. Et ça vous donne, par exemple, à partir de la Genèse, des choses absolument admirables, ou exercice de style, vous avez œuf ou notonect pour notation, en fonction des deux dictionnaires qu'il a choisi. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que l'Oulipo, dans un premier temps, rend un hommage particulièrement fort à cette œuvre singulière qui est Exercice de style, en appelant sa première publication collective Exercice de littérature potentielle. Dans un second temps, par une sorte de retour symbolique, c'est l'influence de l'Oulipo qui va s'exercer sur l'œuvre de Queneau. Au cours de la décennie 1963-1973, l'auteur va modifier son texte en profondeur. Il s'inspire là de ce qu'il appelle des méthodes nouvelles dans des inédits de la préface. Je ne vous donne pas toutes les références comme ça, mais je vous redonnerai des références précises. Il élimine des exercices qu'il juge périmés ou malvenus. Et puis, il substitue des textes qu'il juge trop élémentaires ou d'une rhétorique plus élaborée. Et comme ça, il va, en fait changer 8 titres d'exercice et il va transformer 6 textes. Si on regarde l'ensemble de l'économie générale de l'œuvre, ça fait quand même pas loin de 20% du travail d'écriture globale qui est marqué par cette nouvelle édition de 1973. Queneau donc marque dans un deuxième temps son œuvre d'une empreinte réellement oulipienne. Donc vous voyez, c'est ça, on a deux temps énormes, importants, enfin deux piliers, un pilier lié à la dimension politique et historique de la résistance, et puis un deuxième dans les années 60 qui est lié à l'Oulipo. L'ancrage historique et politique donc de la première période cède le pas à un engagement d'ordre littéraire, l'auteur inscrivant son œuvre dans le mouvement plus général de ce qu'il nomme lui-même la littérature combinatoire. En deçà de cette évolution intellectuelle, les choses se sont déroulées de façon un petit peu plus complexe pour des raisons proprement éditoriales. Et là, j'aimerais mettre un point sur quelque chose précisément, comme vous évoquiez tout à l'heure, que les littéraires n'ont pas l'habitude de traiter, mais qui me paraît tout à fait indispensable, qui est effectivement la dimension de passage de la génétique littéraire à une génétique éditoriale. En 1963, Gallimard et le Club français du livre présentent une édition illustrée par Massin et Carelman. C'est celle qui se trouve... C'est une première édition illustrée par Massin et Carelman. Dans la lignée de ce que Pierre Faucheux, je crois, un des plus grands graphistes du livre du XXe siècle, si vous ne connaissez pas Faucheux, sautez sur son œuvre, c'est absolument admirable, mais vous la connaissez, son œuvre. Vous la connaissez à travers l'infraordinaire, c'est-à-dire en fait à travers l'ensemble de la culture qui n'est pas nécessairement signée, que vous côtoyez au quotidien, mais dont vous ne connaissez pas nécessairement les origines. Vous connaissez tous la collection Point au Seuil. Eh bien, vous avez du Faucheux sous les yeux. Donc, c'est ça, ça fait partie. Je n'entre pas, parce que là, je refais 3 heures sur l'infraordinaire, c'est peut-être pas l'objectif tout de suite. Faucheux, donc, c'est l'ouvrage qui est très, très mal reproduit, en haut à gauche, là, qui est vert, mais qui est une pure merveille d'intelligence, d'accompagnement typographique du texte de Queneau. Donc Massin reprend les idées de Faucheux, il est très fort pour ça, et il est alors directeur artistique chez Gallimard, et il propose des illustrations typographiques sur le texte de Queneau, et parallèlement, Carelman, pour sa part, propose des exercices de style peint, dessiné ou sculpté. Donc on a une œuvre, certains diraient à certaines époques, une œuvre multimédia. J'adore. Nous, on a parlé d'unimédia, mais bon, c'est une autre chose, en parlant de l'écran. Cette édition est reprise dans à l'identique en 1973 avec une couverture différente que vous voyez qui est un peu décalée là, celle qui est au-dessus là. Elle est reprise à l'identique et puis en 79 à nouveau reprise. Le texte est proprement identique. Le texte de Queneau n'a pas bougé d'une virgule. En revanche, Massin Carelman ajoute 45 illustrations au lieu de 33. Donc en fait, l'édition a bougé uniquement d'un point de vue des illustrations. Nous savons qu'en 1973, donc au moment où il y a cette transformation, Queneau modifie son œuvre et propose pour la collection blanche, donc la collection générique que vous avez ici au centre, la collection dans laquelle paraît l'édition originale, une nouvelle édition qui bénéficierait de toutes les transformations oulipiennes. Il a changé 20% de son texte, de l'édition originale, donc il propose en 1973 une nouvelle édition dans laquelle il va changer, et il le fait pour la collection blanche. Si vous ne me suivez pas, vous me rappelez, hein, parce que le truc est un peu complexe au niveau éditorial, mais s'il y a des choses qui ne vont pas, n'hésitez pas. Donc, en 73, il modifie la préface qu'il a faite pour l'édition illustrée. En revanche, il ne touche pas le texte. Il ne touche pas le texte, et on va expliquer pourquoi après. Ce qui fait que on se trouve sur le marché avec deux éditions. Celle de la collection blanche qui continue à être éditée, qui continue à sortir et qui continue à être vendue, et celle de l'édition illustrée qui est issue de l'édition de 47, ce qui fait qu'on a deux états du texte qui circulent sur le marché à l'heure actuelle qui sont radicalement distincts. L'une et l'autre éditions sont également disponibles sur le marché. Autrement dit, c'est un fait rarissime de l'histoire de l'édition contemporaine. Le lecteur dispose de deux versions distinctes d'une même œuvre, qui présentent en outre la particularité de correspondre à deux périodes intellectuelles radicalement différentes. Le texte illustré est marqué par l'esprit de la résistance, côté paradoxal, tandis que la collection courante, blanche, qui sera reprise en folio et que j'ai reprise dans la Pléiade et que je vais reprendre dans la prochaine édition dont je vais vous parler, est ancrée dans l'esprit de l'Oulipo. L'une résume l'engagement politique de la première période de rédaction, l'autre affirme l'ancrage littéraire et formel qui caractérise le travail des années de maturation. La raison de cette singularité, en fait, n'a rien, strictement rien de littéraire. Elle relève de l'économie éditoriale. Queneau envisageait en fait d'adapter la version définitive des exercices dans l'édition illustrée de 73. Ça n'a pas été fait. Pour une raison toute simple, c'est que refondre la maquette et refondre tous les exercices qui avaient été illustrés par Massin aurait coûté beaucoup trop, et donc l'éditeur a refusé cette refonte du texte au sein de l'édition illustrée. Les conditions donc de possibilités éditoriales, techniques et économiques ont modifié en profondeur les conditions de réception intellectuelle et esthétique de l'œuvre. Ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut prendre en compte. Maintenant, je vais m'intéresser dans un deuxième temps aux métamorphoses de cet objet, texte, qui circule dans la vie sociale. La destinée des exercices de style est restée un objet de perplexité permanent chez Queneau. À sa sortie, l'œuvre, dit-il, écrit-il plus exactement, l'œuvre ne suscita aucun intérêt. Cet accueil semblait confirmer les inquiétudes qu'il avait lorsqu'il écrit à Gaston Gallimard, lorsqu'il lui remet le manuscrit, il lui dit « Je me tords d'angoisse sur mon nouveau bouquin ». Et c'est vraiment c'est quelque chose de nouveau qu'il est en train de proposer. Il a vraiment une réelle inquiétude. C'est une lettre qu'on a retrouvée il n'y a pas très longtemps de Gaston Gallimard à propos du centenaire de Gallimard, comme quoi fouiller les archives, des fois, ça fait remonter des petites perles qui sont intéressantes. Mais le bilan qu'il va dresser 25 ans plus tard renverse complètement la perspective. Dans les brouillons de la préface, il écrit « Le livre paru en 1947 et passa tout à fait inaperçu. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'un article d'Émile Henriot, qui était critique dans Le Monde, le signala à l'attention du public. Puis Yves Robert en fit un spectacle, Faucheux en 1946, Massin 10 ans plus tard y adaptèrent des typographies multiples, Karelmann l'illustra. Ces derniers temps, il semble accomplir parfois des fonctions pédagogiques, je vais y revenir, toute chose bien inattendue, quand je pense à l'indifférence qui entoura son éclosion. » Je ferme ma citation, une citation de Queneau dans sa préface. La fortune des exercices de style présente ceci de particulier, qu'elle sort de l'espace littéraire habituel, pour se déployer dans les sphères des arts et de la communication, des médias ou de la publicité, et qu'elle se distingue par des pratiques de réappropriation singulières, pratiques pédagogiques ou créatrices, en classe ou en atelier d'écriture, pratiques de réécriture sur Internet, individuelles ou collectives, j'y reviendrai. On se demandera alors dans quelle mesure les métamorphoses des exercices et leur circulation dans la société ne participent pas de l'œuvre elle-même. Et si les différents acteurs, lecteurs ou médiateurs, parmi lesquels artistes, gens de théâtre, traducteurs ou enseignants, ont la part belle, si ces médiateurs n'ont pas fait eux-mêmes le succès de l'œuvre en l'adaptant à leurs mains. De ce processus culturel, je retiendrai trois aspects. Les métamorphoses médiatiques, dans un premier temps, les pratiques d'appropriation, dans un deuxième temps, et les exploitations à visée marchande. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les autres ne le soient pas, mais je mettrai l'accent sur cette caractéristique. Les métamorphoses médiatiques, donc, dans un premier temps. Au-delà de la critique journalistique, l'aura de Queneau, de l'œuvre, pardon, s'amplifie grâce aux adaptations théâtrales. Et là, je vais vous prendre une très belle citation de Boris Vian qui est tirée de... si mes souvenirs sont bons, c'est dans le manuel de Saint-Germain-des-Prés. Petite merveille de bonheur à aller regarder justement sur cette période, parce que Vian, avec énormément de recul, dit beaucoup de choses et donne beaucoup d'informations. Je vous signale au passage que c'était une des rares personnes qui tutoyait que nous, qui lui-même tutoyait, vous voyez sa femme, on est dans un milieu qui est assez particulier. Donc, Vian écrit. Raymond Queneau a connu un succès très considérable en 1949 à La Rose Rouge avec ses exercices de style montés par Yves Robert et interprétés avec une vivacité et une force comique étonnante par la troupe où brillaient les frères Jacques. À la première des exercices, tout le monde se retournait pour voir qui riait si fort. C'était Raymond lui-même, pris à son propre jeu en toute bonne foi. Le spectacle rencontre en fait un véritable succès, plus de 100 représentations à l'époque, ce qui est énorme, surtout à La Rose Rouge. Il est suivi de nombreuses lectures, adaptations musicales, radiophoniques et j'en passe. En novembre 1954, très belle période comme chacun sait, les frères Jacques sortent un disque. À partir des années 60, on assiste à un foisonnement d'adaptations théâtrales, amatrices et professionnelles. Certaines sont diffusées à la radio ou captées pour la télévision, en France comme à l'étranger. Théâtre, radio, télévision, seuls les projets qui ont été formulés d'adaptation cinématographique en fait n'ont pas vu le jour. Hélas, dirais-je. Il y a un film, un début de film qui a été fait pour autour de Saint-Germain-des-Prés. On a des tout petits passages sur les exercices de style qui ont complètement fondu dans le montage. C'est un peu dommage, mais enfin voilà, c'est comme ça, ça fait partie de l'histoire des choses. Le cinéma n'a malheureusement pas mordu. En fait, il y a eu des transformations, mais j'ai pas le temps d'y revenir. En revanche, si on regarde bien, des machines musicales de Pierre Bastien à la bande dessinée de Matt Madden, qui est liée à Loubapo, que je vous conseille, 99 exercices en bande dessinée, c'est une petite merveille, tous les champs artistiques ont été investis. Pas un mode d'expression, un média qui n'ait offert ses propres variations. L'industrie éditoriale, bien sûr, n'est pas en reste avec les versions illustrées que je vous ai évoquées rapidement et qui ont promu le texte lui-même, celle de Faucheux en 56, celle de Gabriel Paris en 1960+1. Gabriel Paris est un grand lithographe, il a commencé son travail, ça devait paraître en 1960, son travail a pris un peu plus de temps, donc sur l'édition vous avez 1960+1, c'est sorti en 61. Si le traducteur grec avant de vous parler de la traduction, je vais quand même finir sur ces exercices qui sortent avec Karelman, Massin, etc., 63, 79, et que nous continuons à voir sur le marché. Les exercices sortent en folio en 82, et puis plusieurs volumes accompagnés de textes critiques sortent plus tard. En 2002, une édition assez singulière que vous avez là sort, qui est un mélange entre les exercices de style, j'en ai fait une analyse précise dans Communication Langage, pour ceux que ça intéresse, et l'articulation entre les 100 000 milliards de poèmes, qui sont deux œuvres radicalement distinctes, mais que l'éditeur a compactées, et donc donnant un regard radicalement différent des exercices de style. Je vous en parlerai en détail tout à l'heure. Je ne l'ai pas amené, parce que c'est un peu lourd, en fait, tout bête. Et puis dans le sac, enfin voilà. Mais allez voir, elle est disponible. Et puis bon, nous reste là l'édition de la Pléiade qui est sortie en 2006 et puis celle dont je vais vous parler qui va sortir donc en 2012 en folio. L'œuvre est également colportée par de nombreuses traductions, plus d'une trentaine, c'est quand même pas rien pour un texte. Je vous donne pas toutes les langues, mais une trentaine depuis la célèbre traduction de Barbara Wright en anglais. Si le traducteur grec Akileas Kyriakidis souligne avec humour que, je cite, « les exercices de style sont probablement le seul livre dont dans l'histoire de la littérature qui serait trahi par une traduction fidèle », son homologue slovène, Alès Berger, se fait le porte-parole de ses collègues traducteurs pour évoquer la joie immense que procure la traduction de cette œuvre, une expérience existentielle unique liée au langage situé dans son contexte de communication. Ça ne s'invente pas chez un traducteur. Mais vous savez, on a très souvent tort de mépriser le travail fait par les traducteurs qui sont parfois, pour ne pas dire le plus souvent, les plus fins connaisseurs d'une œuvre. Évidemment. Mais ils sont obligés de la travailler de l'intérieur. Donc ils en ont une connaissance extraordinairement fine. Plaisir donc de cette expérience que ressentent de la même manière tous les anonymes écriverons qui envoient leur texte à Queneau de son vivant. Et il y a au fond Queneau, que vous pouvez trouver en ligne directement grâce à un travail qui n'a pas été vain, me semble-t-il, vu le nombre de visites qu'il y a sur le site désormais, qui se trouve sur le site de la bibliothèque universitaire de Dijon, donc de l'université de Bourgogne, où vous avez accès aux manuscrits de Queneau, pour la plupart, en tout cas pour ceux qui sont édités. Ce que refuse d'ordinaire, c'est super cet accompagnement, je ne savais pas que j'allais t'accompagner, t'as accompagnement dans l'arène, c'est quand même bien, j'espère que c'est pas moi qui ai mis la mort derrière. Enfin bon, ce que se refuse d'ordinaire la littérature, l'auteur nous le donne à lire et à jouer. Un processus où le lecteur se réapproprie une langue qu'il parle au quotidien. La langue vernaculaire est ici un lieu, un lien d'écriture littéraire pour tous. Les pratiques de réappropriation maintenant. Au-delà de la sphère habituelle de diffusion des objets littéraires, le caractère ludique et pédagogique des exercices a favorisé la circulation de l'œuvre. Et cela s'est fait grâce à des conditions de possibilité techniques, culturelles, sociales, particulièrement favorables. Rédigeant sa préface, Queneau constate que, de temps à autre, j'aime bien le « de temps à autre » quand on voit le paquet qu'il y a, c'est monstrueux, ça, c'est un travail de réception littéraire, là, il y a un travail de thèse, bien. C'est plusieurs milliers de textes qui ont été envoyés. Donc, Queneau, de temps à autre, reçoit un lot de copies où les élèves d'une classe rivalisent d'ingéniosité. Du vivant de l'auteur, déjà, les exercices ont fourni un prétexte pédagogique d'une très grande efficience. Le milieu scolaire est l'un des premiers à avoir réhabilité les ateliers d'écriture, exploitant le jeu et le plaisir à des fins pédagogiques. La diffusion de ces ateliers, soutenus par des mouvements éducatifs militants que vous connaissez tout aussi bien que moi, bien antérieurement aux années 60, mais en tout cas de manière très forte avec le GFN notamment, s'est amplifié dans le milieu culturel, qui n'était pas du tout son espace attendu et professionnel, au cours des décennies suivantes, au cours des décennies durant lesquelles on a vu se déployer l'aura de l'Oulipo précisément. Or, pour les uns comme pour les autres, Les exercices de style ont été et demeurent une œuvre phare pour tous ces ateliers, de quelque milieu qu'ils soient, pédagogiques, professionnels, culturels, etc. Il n'est pas un atelier, un programme ou une fiche de lecture qui ne se recommande de l'œuvre de Queneau de ce point de vue-là. Les vertus didactiques de l'œuvre sont telles qu'en 1995, Enrique Argindey et José Manuel Passos publient un manuel scolaire galicien conçu à partir des seuls exercices de style. C'est-à-dire que c'est le manuel qui est réalisé. Plus qu'une reconnaissance, c'est une véritable consécration. Le milieu enseignant a le pouvoir insigne de faire circuler les textes auprès d'un très large public. Barthes affirmait, retournez à ce texte, il n'est pas inintéressant, que la littérature, c'est ce qui s'enseigne. La référence, c'est... C'est dans Réflexion sur un manuel, c'est dans les œuvres complètes 3, page 945, pour le bonheur, ceux qui ont besoin d'y retourner. Déclaration qui prend toute sa saveur au regard des pratiques pédagogiques exploitant les exercices de style. S'il y a effectivement eu une rencontre objective entre l'école, les ateliers d'écriture et l'Oulipo autour de l'œuvre de Queneau, cette dernière a également trouvé un écho très favorable auprès des internautes. Les représentations de la littérature combinatoire et de l'Oulipo répondent à l'articulation technique, les dispositifs littéraires et éditoriaux, de la science, la mathématique et la combinatoire, des arts libéraux, la littérature, un imaginaire familier pour les internautes qui se sont appropriés l'œuvre de Queneau pour en faire l'une de leurs références culturelles privilégiées. La présence singulière des exercices sur Internet n'a d'égal que la diversité des pratiques permises par le média. Je vous donnerai une anecdote sur une recherche qu'on a faite avec des étudiants à l'époque à l'UNST, où je les ai envoyés chercher tous les sites, non pas citant exercices de style, il y a 6 ans de ça, 5 ans, 6 ans, 6 ans de ça. Non pas citant, je dis bien non pas citant, mais travaillant à partir d'exercices de style, ce qui n'est pas du tout la même chose. Dans la journée, on avait récolté 5000 sites. Donc, c'est... Bon, voilà. Alors, ça, je ne vous dis pas ce qui s'est passé depuis, parce que je n'ai pas suivi. C'est une veille qui est incessante. Mais c'est indicatif du type de réception que cette œuvre a auprès des internautes. Et c'est un texte qui a été publié, un texte de recherche qui est publié. Je vous donnerai les références si ça vous intéresse. Les internautes, donc, réinventent l'appropriation la copie, l'adaptation, la greffe, la réécriture, qu'il double d'une pratique éditoriale et de diffusion. Le projet encyclopédie d'exercice qui ambitionne à rien moins, que je cite Queneau à nouveau dans un manuscrit, qu'un nouvel état de la langue française, a trouvé un écho favorable auprès de ses copistes d'un nouvel âge. La dimension combinatoire du jeu, la souplesse d'écriture réécriture permise par le dispositif technique ont favorisé les métamorphoses de l'œuvre. Au-delà du plaisir et du jeu, la citation des exercices sur Internet est devenue un signe d'appartenance communautaire et l'usage de son image une marque de légitimité. Un point maintenant sur le troisième temps que je vous avais évoqué, les exploitations marchandes. Sur le manuscrit de la préface, sur les manuscrits de la préface, parmi les réalisations qui participèrent du succès, écrit Queneau, des exercices de style, il évoque des offres publicitaires. Et puis, voilà, sans plus. Restées à l'état de projet, ces offres n'ont jamais vu le jour. Dans le dossier des exercices, l'auteur a néanmoins conservé deux projets. Le premier, pour l'une des émissions radiodiffusées les plus populaires d'après-guerre, je ne sais pas si certains l'ont entendu, Qui tout double, animé par Zappi Max sur Radio Luxembourg de 1948 à 57. Bon, ça nous laisse une marge. L'émission est parrainée par la marque DUP. Alors ça, c'est le génie de l'inventeur de L'Oréal, qui a compris que pour vendre son produit de quelque qualité qu'il soit, il fallait utiliser des outils de propagande, ce qu'il a mis admirablement en œuvre. Et donc, pour l'émission, il a parrainé cette émission par la marque DOP, qui a décidé d'investir la radio média qu'il réalise à l'époque les plus forts taux d'audience. Tous les lundis, donc, de 20h à 20h30, les candidats participent au crochet DOP devant un public qui désigne le gagnant en criant « Alors, je n'ai pas... » Je vais le chercher sur Internet, c'est assez drôle, vous pouvez le trouver. Je n'ai pas fait de capture. DOP, 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 il est adopté par DOP. Les systèmes de captation, là, c'est intéressant. Hein. Slogan sur lequel Queneau va jouer en inscrivant ses exercices dans le scénario proposé par le publiciste. L'émission rencontre un immense succès auprès des auditeurs. Ces textes, vous les retrouverez dans l'édition qui va sortir donc je fais du teasing, hein, comme on dit en marketing. Trop fort, là, j'avais pas pensé à ça. Que vous allez retrouver en folie. L'escompte variation publicitaire concerne un projet proposé par le publiciste Hubert Bay pour un médicament, l'Olympax, qui a disparu du marché, tranquillisant fabriqué par les laboratoires DOS. Il s'agissait en fait de rédiger des textes pour des petites plaquettes mensuelles qui étaient adressées gracieusement au corps médical. Vous connaissez certainement ces pratiques qui sont encore en vogue et qui se retrouvent notamment dans les médias médicaux, les revues médicales. Les variations publicitaires que nous publions, qu'on va publier donc dans, s'appelle le bon usage des tranquillisants, ne verront malheureusement pas le jour du vivant de l'auteur. Au cours des années 60-70, au-delà du pastiche, au statut parfois ambigu, situé entre hommage et exploitation marchande, pastiche qui participe également, en tout état de cause, de la circulation de l'œuvre, c'est quelque chose qu'il faut réussir à prendre en compte, d'autres marques n'hésiteront pas à copier les exercices à des fins commerciales sans renvoyer la manne à son auteur. Il n'est pas certain que Queneau ait adhéré à l'équivalence dressée par Blaise Cendrars au début du siècle, entre publicité et poésie. Rappelez-vous ce texte, publicité égale poésie. Cendrars écrit ça comme ça, tel que. Mais il n'avait pas pour autant posé un interdit de principe sur les dérivés publicitaires issus de ses travaux et semblait avoir clairement envisagé de répondre aux offres qui lui avaient été faites. Reste tout le champ énorme, extrêmement vaste, des hommages, aussi en dédicace spéciale à Hector. Je songe à Guillermo, Cabrera Infante, écrivain cubain qui a écrit Exorcismos de Estilo. Donc on passe des exercices aux exorcismes, et ça vous en avez en fait une quantité relativement importante. Face à l'ensemble des métamorphoses médiatiques d'expressions diverses, traduction, théâtre, chanson, musique, bande dessinée, publicité et autres objets promotionnels, face aux multiples pratiques de réappropriation de son œuvre, quand bien même l'auteur devait n'avoir pas connu l'univers du numérique, face à la notoriété et l'engouement pour le principe créatif, ludique et humoristique des exercices de style, Queneau finit par constater quand même, dans sa préface de 73, qu'objectivement, un certain public attendait une telle œuvre. Il se demandait si la singularité des exercices ne pouvait pas s'appliquer à la lumière de ce que depuis on a appelé la littérature combinatoire, celle qui précisément est un des piliers de la littérature sur Internet et de la littérature numérique, je dirais de manière plus générique, ce qui serait plus juste. Sans doute la potentialité a-t-elle été un facteur décisif du succès de l'œuvre, mais cet argument n'effaçait-il pas, c'est une question qu'on peut se poser, le fameux effet évoqué dans l'une des premières revues, effet créé par l'œuvre elle-même, dont Queneau parlait en 1942 déjà. Du coup, face à ce doute, je vais vous la citer quand même, cette phrase, Queneau note en bas de page de l'une des premières prépublications, en fait c'est pas la première, c'est la troisième si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire, oui, c'est dans La Terre n'est pas une vallée d'armes. Il met une petite note en bas de page, c'est un des premiers exercices de style qu'il publie, et il écrit « L'auteur pense ainsi traiter le même sujet, un incident réel d'ailleurs et banal, d'une centaine de façons différentes. » En fait, il en fera 99. En réalité, j'en ai publié 150, un peu plus de 150. Une centaine de façons différentes. Il n'est pas douteux, écrit-il, que ces 100 chapitres identiques quant à la matière ne sauraient manquer, lus à la file, de provoquer un certain effet chez le lecteur. Effet qui a, très curieusement, complètement disparu de l'ensemble des analyses qui avaient été faites sur cette œuvre et, en fait, qui n'a pas été pris en compte. Eh bien, le dernier point que je vous propose va tourner autour de ce certain effet chez le lecteur. Provoquer un certain effet chez le lecteur, Queneau avait vu juste. L'ampleur et la variété des formes de réception le montrent aisément. Mais sur quoi repose ce fameux effet ? Sans revenir aux thèmes et aux thèses déjà développées que vous retrouvez dans la Pléiade notamment, je ne reviens pas là-dessus, j'aimerais formuler une nouvelle hypothèse qui ouvre le champ littéraire à l'espace de réception culturelle et sociale qui est le sien et qui traverse et qui trouve un écho tout à fait singulier au regard de la culture numérique qui nous intéresse. Loin d'envisager ce qu'un critique avait traité de démolition de la littérature, comme on lui avait reproché, Queneau admet être parvenu à décaper la littérature de ses rouilles diverses. Mais le mouvement de régénérescence engagé dépassa ses propres attentes. En jouant sur la variation formelle de l'écrit, en excluant le sujet ou la matière, en effaçant ses propres marques d'énonciation, l'auteur emprunte à des pratiques très anciennes. Il en revient aux propriétés élémentaires, pour pasticher un de ses très très beaux textes poétiques, qui est son dernier recueil de poésie qui s'appelle « Morale élémentaire », donc il revient à des pratiques élémentaires de la littérature orale. L'effet recherché repose sur 5 caractéristiques principales. La répétition, la rime, qui est en soi une répétition, la forme brève, le choix de lieu précis, d'un schéma narratif succinct. Situées au cœur des préoccupations poétiques de l'auteur, ces caractéristiques relèvent des arts de mémoire qui constituent l'un des 5 domaines de la rhétorique classique. Ça n'est donc pas franchement nouveau. Dans une culture orale, le lien social s'établit par le truchement de rituels dans une culture écrite par le biais de textes. L'une est fondée sur la répétition, l'autre sur la variation et l'exégèse. Je vous renvoie là-dessus à un remarquable ouvrage, je suis désolé, je ne suis pas germaniste, mais de Jan Nassmann, je vous le prononce à la française, certains me pardonneront, qui s'appelle « La mémoire culturelle, écriture, souvenir et imaginaire politique dans les civilisations antiques ». C'est traduit par Diane Meur, c'est paru chez Aubier l'année dernière, en 2010, il y a 2 ans. Et c'est un remarquable travail qui explique notamment, qui donne de très très belles, de très très beaux éléments pour comprendre cette articulation entre la culture orale et la culture écrite notamment. Je vous renvoie à Goody là-dessus bien sûr, hein, mais bon, peu importe, c'est pas le sujet pour l'instant.
Excusez-moi.
Ah pardon, oui, j'y reviens. La mémoire culturelle. Et le sous-titre, c'est écriture au pluriel. Écriture au singulier, pardon. Souvenir et imaginaire politique dans les civilisations antiques. Chez Aubier, 2010. Mais d'abord, c'est admirablement lisible, ce qui n'est quand même pas désagréable, parce que nos collègues, parfois, ont une tendance un peu. Comment dire? Bon, j'en dis pas plus. À oublier que d'abord il devrait être écrivain avant d'être théoricien, voilà, pour le dire plus gentiment, et là c'est lisible, donc c'est parfaitement agréable. Alors, constitutif de l'œuvre, la répétition brise un acquis de la culture de l'écrit, d'où elle est d'ordinaire bannie, pour renouer avec un des modes de fonctionnement inhérents à la culture de l'oral. Elle se réconcilie avec un plaisir sensuel, on a parlé de gestes tout à l'heure, de ça dont il s'agit, hein, avec un plaisir sensuel, voire névrotique, qui inscrit le corps dans une modalité de communication dont s'est distancié l'écrit. En lisant les exercices à la file, pour reprendre l'expression de Queneau, le lecteur goûte le plaisir de la première répétition et de son engagement vers le fil des répétitions qui viennent derrière. L'effet absorbe une matière identique, très vite intériorisée. L'attention se porte alors sur la forme. Ainsi, la littérature se forme-t-elle en sa forme même. Et si la répétition, je cite Queneau cette fois-ci, si la répétition est l'une des fleurs les plus odoriférantes de la rhétorique, c'est dans les fleurs bleues bien sûr, c'est une espèce de morceau d'anthologie géniale. La répétition est l'une des plus odoriférantes fleurs de rhétorique. Elle est aussi l'une des préoccupations majeures de l'auteur. Queneau souligne dans le Traité des vertus démocratiques, texte paru de façon posthume, édité chez Gallimard en 93, dont je vous conseille la lecture. Et c'est une très très belle époque pour se poser la question du Traité des vertus démocratiques. Quelque temps avant des élections, c'est pas mal. Moi, je dis ça. Hein. Juste un texte littéraire. Comment ? T'as mon petit esprit de résistance bien ancré chez moi, de base. Queneau écrit dans le Traité des vertus démocratiques que j'ai édité chez Gallimard, donc dans la collection NRF, et les cahiers de la NRF, pardon. Il écrit « Le monde du plaisir est aussi celui de la répétition », auquel il ajoute celui de la névrose, et qui est, toujours selon lui, régi par le principe de plaisir, proposition que l'on va retrouver en termes absolument identiques dans son journal des années 40. À la répétition répond un terme théorique, la rime généralisée. L'auteur explique en fait, qu'on peut faire rimer des situations ou des personnages, comme on le fait rimer des mots. On peut même se contenter d'allitération. Il y a un jeu de la répétition, je vous renvoie alors là à un Rue d'hiver, qui est une pure merveille de ce point de vue-là, un jeu de répétition qui se trouve au niveau des citations, au niveau des personnages, au niveau des rimes, au niveau de phrases qui sont répétées à quelques iota près, ce qui fera dire au maître que les fleurs bleues, écoute, espèce d'andouille, tu vois bien que ça n'est pas complètement une répétition, puisque j'ai mis une virgule. Bon, voilà. Donc, je passe aussi le jeu de l'auteur de ce point de vue-là. Je vous renvoie de manière générique aux fleurs bleues. Ça vous fera passer un moment un petit peu plus gai que celui qu'on a là sous les yeux. Je cherche ma ligne là, en ce moment, en fait. Là, j'ai retrouvé ma répétition. Donc, le procédé de ces rimes qui peuvent se contenter d'allitération, le procédé ne s'arrête pas à la rime classique, il s'étend à ce que Jan Aspahan, précisément de manière très intelligente, me semble-t-il, appelle la rime de pensée. Rime et répétition sont chez Queneau expression d'une même théorie poétique qui, dans la tradition orale, servent le processus de la mémorisation. Mais la répétition ne serait rien sans le plaisir, le jeu et le comique qui fondent le succès des exercices. La connivence repose sur la mémoire et la connaissance. Plaisir ressenti à la reconnaissance d'une allusion, d'une référence, d'un trait d'esprit ou d'un processus rhétorique partagé. L'efficace réside alors dans l'échange pleinement effectué avec le lecteur. La forme du texte, matériel et prosodique, j'insiste, Roubaud, de manière très maligne, nous a donné cette formule que je trouve très, très, très heuristique, de sens formel. C'est de ça dont il s'agit. La forme du texte, matériel et prosodique, joue également sur la mémorisation. Des unités textuelles courtes, les exercices font rarement plus d'une page, une matière, pour reprendre les termes de Quenol, une matière identique, un fait divers banal, une querelle entre deux individus à propos d'un détail qui n'a aucune importance, un schéma narratif minimal qui donne un ordre syntaxique articulé en deux temps, situé en deux lieux, très précis, le bus, la gare Saint-Lazare. Chacune de ces caractéristiques évacue l'intérêt de l'histoire au profit de la forme et facilite la manipulation des textes. Le phénomène d'appropriation emprunte les voies de l'apprentissage mis en place par la littérature orale. En intégrant les structures de la culture orale dans l'écriture par le truchement de son œuvre, Queneau, loin de chercher à démolir la littérature, nous invite à sa renaissance. Et c'est pour ça que je vous le donne à lire en tant que tel, par rapport à ce qui est en train de se passer par rapport au numérique. Le lecteur n'est plus alors un consommateur passif, mais un écriveron, puisque ça c'était le bandeau qu'il y avait sur la première édition, un écriveron qui prend part à la vie et la circulation de l'œuvre pour le plus grand bénéfice de la littérature. Un lecteur déculpabilisé, à l'instar du narrateur de maladroit qui constate que finalement c'est tout de même agréable d'écrire. Voilà. Alors, deux, trois points pour illustrer ce tableau. Avant, oui, pour illustrer cette présentation. En haut, passage du manuscrit au tapuscrit à l'épreuve corrigée. Nous sommes dans une strate qui est une strate à prendre en compte avec une rupture qui est une rupture essentielle. Le passage de la sphère privée à la sphère publique. Dès lors que l'on passe au stade de la copie travaillée, destinée à la revue qui est en dessous, on ouvre le champ. Ce document n'est plus un document privé, c'est un document public, un document qui a commencé à circuler. Donc les notes que l'on a dessus ne sont pas de même nature. Je n'entre pas dans les détails, ce sont des fonctionnements qui sont des fonctionnements importants. Premier stade donc, esprit de la résistance, les quatre revues. Donc les pré-originales, comme on dit en génétique littéraire, donc en génétique éditoriale, qui ont pré-publié des exercices de style. 47, que nous rassemble cette petite cinquantaine d'exercices qu'il a fait dans ces quatre revues. Il ajoute à l'île sur Sorgue en 45, pendant l'été, le reste, et il fait sa première édition, 1947, dans la collection Blanche. Très rapidement, des éditions illustrées sur lesquelles je reviens tout à l'heure. Et puisque je vous ai signalé l'édition illustrée de Massin et Carolman qui va figer le texte de l'édition originale de 1947, qui va arriver où il est, ah oui, là, qui va arriver là, qui est toujours disponible sur le marché. Et puis les années 60, la transformation dont je vous ai parlé autour de l'Oulipo, une modification radicale, 20% de l'œuvre, mais complètement changée. Donc c'est vraiment une modification essentielle. Et on arrive à cette nouvelle édition blanche, dans la blanche, qui est donc disponible sur le marché. Vous avez donc deux œuvres distinctes entre les mains, quand vous pouvez, là, sur le marché en ce moment. Parallèlement à ça, la première édition en folio, 82, la première édition avec un texte d'accompagnement, je passe, l'édition Pléiade, et puis la prochaine, que nous verrons donc en avril, qui va paraître et qui sera la plus complète, parce que accompagnée d'un ensemble de textes qui viennent avec ces petits tirets verts des dossiers des manuscrits, des textes donc inédits qui n'ont pas été repris ailleurs, et puis un texte d'accompagnement qu'on a signalé là par une flèche orange. C'est-à-dire que le produit éditorial que vous avez entre les mains est un produit éditorial co-énoncé. C'est une des bases de l'énonciation éditoriale. Vous n'avez jamais un texte qui arrive aux yeux du lecteur et qui soit le seul et l'unique produit de son auteur. Pensez ne serait-ce qu'à l'ensemble pléthorique des acteurs qui transforment ce texte manuscrit que vous donnez à un éditeur, l'éditeur, maquettiste, les typographes, les imprimeurs, et puis après les libraires. Parce que le livre, il est calibré aussi d'une certaine manière en fonction d'un certain nombre de conditions. Je n'entre pas dans les détails, etc. etc. Donc vous n'avez... Là, je mets en évidence un certain nombre de sources de co-énonciation de cette œuvre, de ce texte, qui n'arrive jamais sur le marché, donc entre les mains du lecteur, comme ça, vierge, comme la voix de l'auteur. C'est une métamorphose médiatique, au sens propre du terme. Votre texte est transformé par sa mise en œuvre à travers l'ensemble de l'industrie, pour le faire vite, l'ensemble de l'industrie éditoriale. Alors, à côté... Certaines œuvres vont disparaître, enfin, certains ouvrages vont disparaître, ces deux collections, et je les ai mis là en grisé parce qu'ils sont disponibles sur le marché, mais sur un autre type de marché qui est le marché d'occasion. Hein, il n'est plus réédité, mais il est disponible. Sur le marché d'occasion, sur Internet, vous pouvez retrouver, je vous conseille si vous cherchez hein, celle-là, la meilleure, celle de Gabriel Paris. Vraiment, de Pierre Fauché. De loin la plus belle. Celle de Gabriel Paris, je ne l'ai pas reproduite là parce qu'elle est grande comme ça. Ah, tiens, pas sur mon scanner. Puis j'ai pas eu le temps de faire la photo. Ouais. Donc, et puis, une espèce d'hybride que j'ai laissé au centre parce qu'il est disponible sur le marché également, qui est un hybride très étonnant, qui est un croisement de deux œuvres réalisées par un éditeur qui est Gallimard Jeunesse. Gallimard Jeunesse, qui pour fêter ses 20 ans, a pris, regarde ce qui est intéressant, c'est très très rapide, c'est un phénomène de légitimation symbolique. On parlait tout à l'heure de ces phénomènes par rapport à qu'est-ce qui est littéraire, qu'est-ce qui n'est pas littéraire, quelle est la littérarité, quels sont les circuits de légitimation, etc. Et bien là, on a un phénomène tout à fait passionnant. Cette œuvre ici est construite chez Gallimard Jeunesse autour d'un des piliers référents de la ce qu'on appelle la littérature générale chez Gallimard, c'est-à-dire le top. C'est le mieux. Vous êtes publié dans La Blanche, vous faites partie du Gotha. Et donc, en fait, il y a une aura de cette collection qui est une aura qui ne se démonte pas. Qu'est-ce que fait Gallimard Jeunesse? Gallimard Jeunesse a fait sa notoriété sur ses illustrateurs. C'est un éditeur remarquable, cela dit au passage. Hein. On a vu une créativité dans la littérature enfance-jeunesse absolument hallucinant, notamment avec Pierre Marchand à une époque, qui a créé à destination d'un certain type de public des types, je dis bien des types de livres qui n'existaient pas sur le marché. Bien. Sauf que Gallimard Jeunesse n'avait pas la notoriété et la légitimité que la littérature générale donne à Gallimard. Qu'est-ce que fait l'éditeur Gallimard Jeunesse? Il prend un des piliers du fonds Gallimard Littérature Générale, et puis il joue sur ce qui a fait sa propre notoriété, sur l'illustration. C'est donc une œuvre qui est accompagnée de 100, par plus exactement, 160 artistes peintres, pour la plupart. Et c'est vraiment très intéressant, cela dit au passage. Et alors, on a ce jeu très étonnant qui a consisté à massicoter le livre de tiers et à avoir en dessous une possibilité d'articulation des exercices qui sont en pied de page. Et donc vous avez en haut des illustrations qui vous pouvez combiner avec les... Et ça, ce principe-là, ce qu'on appelle le principe des têtes folles, qui est en fait un héritage de la littérature anglaise du 19e siècle, donc les têtes folles, où on combine le haut de la tête, le corps, les pieds, et on va faire le texte que l'on veut à partir de ça. Bien. Et bien là, vous combinez quelque chose qui est assez... j'allais dire, c'est une chimère au sens... classique du terme, vous avez en pied de page ce que Queneau a fait pour les 100 000 milliards de poèmes, et vous avez en haut, en fait, ce qu'il a fait pour les exercices de style. Donc là, l'éditeur se permet de créer un hybride, qui est un hybride qui n'est absolument pas pensé par son auteur, et qui est la croisée de deux œuvres, qui sont deux œuvres qui n'ont strictement rien à voir, disons-le simplement. Toutes les deux sont à leur façon combinatoires, mais elles n'ont rien à voir dans l'esprit. Les 100 000 milliards de poèmes, c'est une mécanique combinatoire remarquable, hein. 10 puissance 14, 100 000 milliards de poèmes, qui continue à être une des références. Mais Queneau l'a dit lui-même, on a une histoire sur la littérature combinatoire, pardon, qui est extraordinairement riche. Je pense comme ça aux dévotés à Quirinus Kuhlmann, qui avait fait ses milliers de litanies de la Vierge. Donc vous pouviez faire vos litanies avec un grand... Pas de mémoire, pas grave, vous avez Quirinus Kuhlmann et vous pouviez faire vos litanies et avoir les dons de la Vierge. Bonheur. Non. Voilà. Bon. Je vous laisse la parole.
Merci. Merci beaucoup, Emmanuel, pour avoir parcouru comme ça sur 60 ans l'histoire de ce texte.
Je vous ai amené, pardon, je ne vous ai amené, pour des raisons matérielles toutes simples, qu'un exemple type d'une exploitation pédagogique des exercices de style qui m'a été envoyé par une de nos collègues dans un collège du Havre, il y a longtemps déjà, qui a fait un remarquable petit travail, superbe. Ça, il y a, je ne me rappelle plus, au moins 20 ans. Et qui monte, 92, là-bas, je n'étais pas loin de mon compte, qui monte, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas attendu d'avoir Internet pour faire des productions comme ça, mais quand même, la maniabilité du média permet de faire des choses qui sont d'une autre nature. Mais je suis, moi, resté complètement épaté par ce travail, c'est un travail super, pédagogiquement remarquable.